des associations caritatives. Il avait répondu « Moi, je fais la charité comme je fais l'amour. Dans un cas comme dans l'autre, je n'ai pas besoin de témoins. » Il semblerait que les Rotariens, eux, quand ils font la charité, aient besoin de témoins. J'espère bien que lorsqu'ils font l'amour, ils n'ont pas besoin de témoins parce que les sextapes pourraient être effrayantes.
Pour parler à Daniel Mermet, Alain Prieto, je suis rotarien à Bordeaux. Le sujet d'émission qu'il a fait est triste, gauchiste et méchante envers des gens engagés. C'est l'année jouée, avant qu'il m'appelle, j'expliquerai exactement la vérité de ce réseau. C'est tout.
Pour reprendre le message sur le répondeur à propos de l'arbitrage de l'État dans les rapports de force sociaux, comment ne pas vouloir donner un coup de pied dans tout ce merdier fiscal quand les politiques en place organisent la défiscalisation de la charité et de la générosité ostentatoire par la reconnaissance des fondations comme celle du Rotary et du Lions. Ces organisations peuvent alors choisir de redistribuer leurs richesses à hauteur et là où elles l'ont décidé. Ces représentants, bien implantés au MEDEF, hurlent au loup quand ce même État doit prélever le peu d'impôts qu'ils doivent encore pour assurer ses missions régaliennes, en particulier la redistribution à ceux qui ne sont pas du bon côté de la charité. Ces Rotariens nous font savoir qu'ils œuvrent contre la faim. Par exemple, dans la grande surface où je fais régulièrement mes courses, plusieurs collectes des vivres sont organisées pour la banque alimentaire. Ainsi, avec un petit sachet à remplir gracieusement, on force gentiment la main des clients. Si le patron de la surface de vente est en plus un adhérent de ce club, c'est tout bénef pour lui. Il fait le bien, payé par ses clients. Fallait oser un tel cynisme. Ils l'ont fait. Rien ne les arrête. Alors qu'attendons-nous ?
Salut Daniel. Alors on y est. 6 juin 2014, nos libérateurs, nos sauveurs sont venus de l'Atlantique pour nous redonner notre liberté. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les Américains ont commercé avec les nazis jusqu'en 1942. Donc voilà, General Motors fabriquait même les bombardiers Junkers en Allemagne. Les gros patrons américains aimaient les nazis, car les nazis avaient interdit les syndicats en Allemagne. Les gros patrons américains étaient admiratifs devant ce petit bonhomme à la moustache. Il faut savoir aussi que les Américains ont toujours préféré un régime fasciste à un régime communiste. Donc ils ont soutenu Hitler, croyant que Hitler allait mettre fin au communisme, au berceau du communisme, en envahissant l'Union soviétique. Et il faut savoir aussi que les Américains sont intervenus suite au retournement de la situation en Russie, quand les troupes russes ont repoussé les Allemands chez eux. Les Américains se sont dit « Oh, oh, les Russes vont nous piquer l'Europe, il serait peut-être temps de se réveiller ». Donc voilà, le mythe du gentil Américain venant mourir sur nos plages pour notre liberté, eh ben, c'est comme les cow-boys et les Indiens, c'est de la propagande pour nous faire croire ce qui n'est pas toujours la réalité. Voilà. Les choses ne sont pas toujours aussi roses qu'on veut nous le faire croire. Merci Daniel, c'était Yannick de Reims.
Daniel, bonjour, de Joseph de Rennes. Entendu ce matin au journal une info incroyable à propos de l'amende que les États-Unis veulent infliger à Paribas. Comme Obama a dit qu'il ne veut pas se mêler d'une affaire judiciaire, au passage on sourit, Fabius a répondu, en forme de menace, qu'il fallait faire très attention car ça pourrait avoir une incidence sur la négociation du TAFTA. Encore une fois, le citoyen va se faire flouer. On va subir la double peine, on va devoir accepter les exigences américaines pour sauver Paribas. Vraiment, mais vraiment, on ne nous épargnera rien. Salut Daniel, et à bientôt.
Merci, merci pour ces messages, chers AMG, des contre-feux, des contre-pieds. Et là, on vient de parler de TAFTA, on peut très bien dire grand marché transatlantique. C'est en tout cas le titre choisi par le monde diplomatique ce mois-ci. 8 pages consacrées à ce sujet, les puissants redessinent le monde. Et on va voir que selon le diplo, c'est pas seulement, comme d'habitude, le scénario des grands méchants américains qui viennent écraser les pauvres petits européens. Il y a beaucoup d'américains qui sont concernés par cette affaire et pour qui c'est pas forcément le bonheur que ce projet en cours et sur lequel nous pouvons encore intervenir, nous autres les citoyens. Souvenez-vous de l'AMI, il avait suffi de faire la lumière sur l'AMI pour que ce Dracula perde tout son pouvoir. C'est ce qui peut arriver au grand marché transatlantique si on se mobilise. C'est pas le seul sujet du diplo ce mois-ci, on va aller au Sri Lanka. Oui, le Sri Lanka, c'est où, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font là-bas? On va s'intéresser à ça. La Russie, raconté par son chauffage. La Russie raconte, on se dit, oh, bon, c'est rigolo. Non, parce qu'évidemment, cet immense pays, souvent très très froid, avec des moins 20, moins 30, moins 40, comment on le chauffe, comment on a commencé à le chauffer, et où on en est aujourd'hui, alors que le chauffage est resté en grande partie un service public dans ce pays. On va parler de foot et de lutte sociale, de supporters aussi. Et puis, on va parler aussi de techno. Ah ah ah, la techno, eh ben, pour le diplôme, c'est aussi un peu une utopie. Voilà nos sujets aujourd'hui. Benoît Bréville, Renaud Lambert, Serge Halimi, David Garcia, Hélène Richard et Antoine Calvino sont là pour nous éclairer. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut, c'est Bernard Lubat, en direction du Festival La Voix est libre à Toulouse. Alors mes amis, si vous ne l'avez pas fait, courez prendre vos places pour le Festival La Voix est libre à Paris, où se retrouvent jusqu'à samedi plus de 60 artistes, musiciens, poètes, danseurs, acrobatants, voltigistes venus des quatre coins du monde pour créoliser les langues, trépasser les frontières, faire valser les murs des bouffes du Nord, de la Maison de la Poésie et de l'Institut du Monde Arabe. Du Zest à Paris, en passant par Istanbul, Le Caire et Kinshasa, la joie et l'improvisation sont des armes de création massive face au clivage des genres et des identités humaines. Alors comme dit Blaise Merlin, bienvenue en zone de libre-échange, ce territoire aux frontières indéfinies où les productions... On recommence tout. C'est vachement improvisé, quoi. Ouais, alors je ne sais pas si vous gardez tout ça, mais Blaise Merlin, vraiment, c'est pas un cadeau, mais c'est pour ça qu'on l'aime.
On recommence, allez. Bon, il est 5h du matin, j'ai attendu la 6ème République et la Nouvelle et la Constituante toute la nuit. Je suis un peu déçue. Une prochaine fois peut-être.
Salut, c'est Daniel Mermès, c'est la basse et j'y suis, le monde diplomatique de juin.
Flight number 2, arriving from New York.
Et voilà avec le monde diplomatique du mois de juin, on a beaucoup de monde, c'est bien, on est à l'extérieur, c'est parfait. On va tout de suite attaquer, le GMT, le grand marché transatlantique. Le diplo consacre un grand dossier de 7 pages, 8 pages, pas 7, 8, 8 pages à ce grand marché transatlantique. C'est passionnant parce que c'est pas joué, hein, Renaud Lambert.
Non, c'est pas joué. Il y a tout un tas de leçons à tirer de la façon dont ça s'est déroulé. Et puis, il y a une campagne à mener. Donc, on a voulu participer à cette campagne avec ce dossier de 8 pages. Nous a semblé que d'abord c'était une formidable leçon d'opiniâtreté politique de la part de nos amis libéraux. Bon, le contexte, vous le connaissez, Daniel Mermet, nous sommes au cœur d'une crise qui illustre la faillite du projet néolibéral. Les économies européennes s'effondrent ou piétinent. Dans chaque pays, la domination des puissants semble chaque jour un peu plus évidente. Et pourtant, les libéraux, plutôt que de reculer, ils attaquent, ils s'adaptent, ils font preuve d'imagination. Alors on avait déjà observé ça au moment de la crise financière de 2008. En tant que théorie économique, le libéralisme semblait totalement discrédité. Eh bien, nos amis libéraux en ont profité pour lancer une grande offensive contre l'État-providence, contre les dépenses publiques, contre les programmes sociaux. Aujourd'hui, la crise continue, le chômage augmente, les inégalités s'envolent. Et la réponse de Bruxelles, c'est de proclamer la supériorité du droit des entreprises à faire des profits sur le devoir des États à protéger les populations. Bon, vous conviendrez que si la gauche se montrait aussi opiniâtre lorsqu'elle est au pouvoir, peut-être que l'histoire s'écrirait d'une couleur un peu plus vermillon. Pour revenir un peu en arrière, depuis une dizaine d'années, les négociations visant à libéraliser toujours davantage le commerce piétinaient au sein de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et là encore, les libéraux ont fait preuve d'une capacité d'adaptation, d'inventivité assez remarquable. Ils se sont dit « ces grandes stratégies visant toute la planète ne fonctionnent pas ». Qu'à cela ne tienne, on va procéder, on va contourner ces difficultés. Ils ont commencé à signer des accords bilatéraux entre deux pays, entre un pays, une région, et c'est le cas du GMT. Alors concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit comme pour tous les accords de libre-échange, de réduire ce qu'on appelle les barrières tarifaires qui limitent la possibilité pour des produits d'arriver sur un nouveau marché. Mais entre l'Union européenne et les États-Unis, en moyenne, ces barrières tarifaires sont plutôt réduites. L'objectif, dans le cas du GMT, c'est plutôt d'harmoniser les normes, les règles qui encadrent les activités sociales, l'environnement, les aspects techniques des activités professionnelles, probablement non pas vers le haut comme on nous le suggère, mais comme à chaque fois que le modèle étranger est utilisé, pour que chacun des deux partenaires de part et d'autre de l'Atlantique puisse dire « Écoutez, là-bas, les réglementations sont plus favorables aux entreprises, adoptons la même chose, harmonisons nos réglementations. » Et il y a un autre aspect très important du GMT, c'est la possibilité pour les entreprises de se retourner vers les États pour leur imposer leurs droits. Ce sur quoi Benoît Bréville et Martine Bullard ont écrit dans le journal.
Ah ben alors voilà, il se trouve que Benoît Bréville est là. Ça c'est assez costaud quand même cette histoire. Hein. C'est-à-dire que les entreprises se tournent vers les États. Alors on pense que c'est une menace, que c'est un rêve, une utopie ultralibérale, mais pas du tout, c'est effectif.
Il faut même plus que se tourner, elle les attaque en justice pour des raisons, je vais évoquer quelques cas. Et effectivement, c'est un des grands sujets du marché transatlantique, c'est est-ce que ce traité va permettre aux entreprises américaines d'attaquer des États européens, aux entreprises européennes d'attaquer les États-Unis. Auquel titre ils attaquent les États? C'est au titre de ce qu'on appelle la protection des investissements. C'est-à-dire que si une entreprise considère qu'un État a adopté une loi, une mesure, une disposition qui contrevient à ses investissements, elle peut attaquer l'État pour demander réparation. J'ai pris quelques cas. Par exemple, en 2004, le Mexique a créé une taxe sur les sodas pour lutter contre le surpoids et l'obésité dans le pays. Et il y a une multinationale américaine, Cargill, qui a attaqué le Mexique pour demander réparation et qui a obtenu devant un tribunal 66 millions d'euros de réparation de la part du Mexique.
Et les Mexicains continuent à grossir.
Au Guatemala, l'État a voté une loi plafonnant les tarifs de l'électricité qui sont distribués par des compagnies privées. Et il y a une compagnie américaine basée en Floride qui a porté plainte contre cette loi plafonnant l'électricité et qui a obtenu 25 millions d'euros de réparation. Et les entreprises françaises sont concernées aussi puisque un des cas très récents, c'est on a un peu parlé, c'est le cas de Veolia qui a attaqué l'Égypte parce que le pays avait augmenté son salaire minimum après les printemps arabes. Et ça contrevenait donc à ses profits. Voilà, on appelle ça des arbitrages. Donc du coup, ça se fait en marge un petit peu du droit international. Les tribunaux, c'est un tribunal de la Banque mondiale, un tribunal de l'ONU ou des chambres de commerce qui peuvent arbitrer ça. Et c'est trois juges, en fait, qui ont tous les pouvoirs. Il y en a un qui est nommé par la multinationale qui se plaint, l'autre par l'État qui est accusé, et le troisième, donc le président du jury, qui est nommé en accord par les deux parties. Et théoriquement, ces arbitres ne sont pas mandatés ou qualifiés d'une quelconque façon pour pouvoir arbitrer ça. Les États et les entreprises peuvent choisir n'importe qui. Alors, bon, vous en doutez, quand on dit n'importe qui, c'est pas moi ou c'est pas vous. Ce qui est dommage parce que c'est un métier assez lucratif, mais c'est essentiellement des avocats d'affaires. Donc des avocats d'affaires qui viennent d'une poignée de cabinets occidentaux, britanniques, français, américains. Il y en a une vingtaine qui se partagent la plupart des cas qui ont été jugés actuellement. Ils se font payer entre 300 et 500 dollars de l'heure pour des affaires qui durent des mois. Donc vous voyez, ça peut susciter des vocations. Il y a certaines affaires qui ont duré plus de 500 heures. Je crois que le coût moyen d'un procès est de 8 millions d'euros. Un coût qui grossit notamment parce que pour se défendre ou pour attaquer, les multinationales et les États ont besoin de faire appel à une batterie d'avocats qui rémunèrent aussi entre 500 et 1000 dollars. Donc vous voyez, c'est
l'heure.
L'heure, oui, je n'ai pas précisé, évidemment. L'heure pour des affaires qui font donc plusieurs centaines d'heures. Et ce qui est intéressant, c'est que ces avocats qui défendent les États et les entreprises sont choisis parmi les cabinets qui fournissent aussi les arbitres. Vous voyez, donc du coup, il y a vraiment une sorte de petite mafia de cabinet d'avocats d'affaires qui est à la fois juge et partie dans ces affaires. Ce qui fait qu'ils ont évidemment tout intérêt à ce que ce genre d'affaires se multiplie.
Mais les États sont vraiment impuissants ou un petit peu complices?
Bah, les États sont complices parce qu'en fait, ils peuvent être attaqués à partir du moment où ils ont signé un traité d'investissement avec un État. Donc si la France signe un traité d'investissement avec les États-Unis, ils autoriseront les entreprises américaines à attaquer l'État français si elles le jugent nécessaire. Donc les États sont responsables en ce sens-là. Mais néanmoins, ils sont aussi victimes parce qu'ils se retrouvent à payer des sommes faramineuses. Et vous vous en doutez, c'est surtout, je crois, pour les deux tiers des cas, des États du Sud qui sont attaqués par des multinationales du Nord.
Serge Halimi.
Quand Renaud a expliqué que certains de nos dirigeants se sont montrés concernés, soucieux du traité, il faut rappeler que dans le cas de la France, ça n'est pas du tout le cas. En tout cas, c'est pas le cas du président de la République, puisque lorsque François Hollande s'est rendu aux États-Unis, il a au contraire déclaré qu'il fallait aller plus vite dans la voie de la ratification du traité.
François Hollande.
Oui,
La question qui était posée sur...
11 février 2014.
Le traité commercial, enfin, le partenariat commercial, c'était de savoir dans quel horizon de temps nous voulions l'inscrire. Nous avons parlé avec le président Obama. Je connais le débat qui existe également au Congrès. Pour nous, dès lors que les principes sont fixés, que les mandats sont donnés, que les intérêts sont connus, aller vite n'est pas un problème, c'est une solution. Nous avons tout à gagner à aller vite.
Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, qui revient un peu sur ce qu'on a évoqué, c'est que très souvent on présente ce traité comme une imposition américaine que les Européens devraient subir, et le combat est en quelque sorte campé en des termes nationalistes, où il y a l'aigle américain qui va dévaster l'Europe et l'Europe qui doit se défendre des mauvaises intentions ou de l'agressivité américaine.
On peut comprendre qu'on ait ce schéma un peu dans la tête. Oui. L'histoire nous l'a inculqué.
On peut comprendre qu'on ait ce schéma dans la tête, à ceci près qu'aux États-Unis aussi, des gens luttent contre le grand marché transatlantique et parfois s'opposent à des firmes multinationales qui peuvent être européennes. Aux États-Unis aussi, vous avez beaucoup de gens qui sont opposés à ce GMT. Vous avez des collectivités locales américaines qui risquent demain d'être victimes des nouvelles normes libérales qui leur interdiraient de protéger l'emploi, l'environnement, la santé. Par exemple, les autorités françaises, Hollande, Montebourg, récemment ont déclaré qu'elles étaient opposées au Buy American Act, à cette loi américaine qui, dans certains cas, réserve l'emploi des dépenses publiques à des productions locales, à des productions américaines. Or, ce Buy American Act, ça a été l'une des grandes conquêtes, l'une des grandes victoires de certains syndicats américains. C'est une loi qui est une excellente mesure, car il est normal qu'une collectivité locale qui souhaite engager des fonds publics dans la lutte contre le chômage, par exemple, réserve ces fonds publics à des entreprises locales, même si elles produisent plus cher. Parce que ces entreprises locales vont embaucher sur place à un tarif correct et vont payer des impôts sur place. Les Européens aussi devraient avoir un Buy European Act. Plutôt que de s'opposer au Buy American Act, il faudrait que nous ayons un Buy European Act qui nous permettrait de réserver les fonds publics européens à des circuits courts, de mieux protéger l'environnement et ainsi de privilégier des normes sociales plus avancées. En d'autres termes, ce n'est donc pas un combat européen contre américain, parce que dans cette affaire, il y a des entreprises bien européennes, françaises comme Veolia, allemandes comme Siemens, qui se montrent tout aussi agressives que des multinationales américaines quand il s'agit de poursuivre en justice des États qui menacent leurs profits.
Où en est le combat, Renaud ? Que les auditeurs sont en train de se dire, mais où est-ce qu'on signe ? Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? De quel métro par la manif ?
C'est pas encore déterminé, mais l'information circulera bientôt. Le combat, pour l'instant, a été plutôt efficace grâce à la campagne européenne qui s'est beaucoup jouée sur ces questions-là. On l'a dit tout à l'heure, les négociations ont été secrètes jusqu'à ce que naisse cette mobilisation qui ont conduit la Commission à essayer de réagir. Elle met maintenant en avant son idée de la transparence, qui n'est pas tout à fait satisfaisante sur le plan démocratique. Néanmoins, on observe une modification du langage. La Commission a concédé une procédure de consultation de la société civile, qui n'est pas là non plus satisfaisante sur le plan du fonctionnement démocratique, mais qui dénote une préoccupation de son côté. Même si François Hollande et Arnaud Montebourg n'ont pas changé leur discours, certains dirigeants du Parti socialiste et des dirigeants à l'étranger explique que oui, effectivement, il faudra voir et que ce traité, on ne le signera que s'il respecte bien les dispositions qui nous conviennent. Toujours est-il que là, on a la démonstration du fait qu'il est possible pour une mobilisation d'imposer une thématique à des médias qui s'en souciaient assez peu, il faut le dire, qui se satisfaisaient du secret dans lequel se déroulaient ces négociations. Et on observe la formation de collectifs. Il y a le collectif Stop TAFTA. TAFTA, c'est l'acronyme anglais du GMT. L'association ATTAC s'empare de cette question. Des débats s'organisent. Et on observe un frémissement qui rappelle le début de la mobilisation de 2005 qui pourrait conduire à des succès semblables.
Si je peux évoquer Serge Halimi. L'autre dimension de ce traité qui est l'objet de mon article dans le numéro du Diplo de ce mois-ci, c'est la dimension géopolitique. Car quelle est la vision des dirigeants américains et des dirigeants européens dans ce traité ? Parce que là-dessus, il y a une vision qui est assez commune. Et c'est cette idée qu'il y a des pays émergents qui se développent, qui sont menaçants, et que le seul moyen de leur faire face, c'est de faire front. c'est de souder les solidarités transatlantiques entre les États-Unis et l'Europe. Donc si les États-Unis tiennent au grand marché transatlantique, ce n'est pas pour conquérir l'Union européenne.
Mais non.
Bon, parce que déjà, ils sont quand même un peu chez eux, avec l'OTAN notamment et d'autres institutions de ce type. Mais pour détourner l'Union européenne, d'une part, de tout rapprochement avec la Russie, et surtout pour contenir la Chine. Et dans cet état d'esprit, il n'y a pas que les Américains, puisque récemment, il y a l'ancien Premier ministre François Fillon qui a déclaré, je le cite, « On voit monter ces émergents qui constituent un danger pour la civilisation européenne, et nous, notre seule réponse serait de nous diviser, c'est une folie. » Donc là, vous voyez, François Fillon exprimait son soutien
la peur des Chinois,
à ce,
François
à ce
Fillon.
Grand marché transatlantique, exactement. Et le député européen Alain Lamassoure...
Ce qui est en jeu avec ce traité, c'est de faire en sorte que la politique reprenne son rôle pour déterminer les normes techniques de sécurité sociale et d'environnement. Et nous avons intérêt, nous, occidentaux, européens et américains, à se mettre d'accord sur des normes communes de manière à pouvoir les imposer ensuite aux Chinois. Les Chinois sont très forts pour produire, pour fabriquer, mais pas encore pour inventer.
Donc vous voyez qu'il y a derrière ce marché aussi un projet géopolitique qui part de postulats assez simples. Les taux de croissance en Europe et aux États-Unis sont plus faibles que ceux des pays émergents. Non seulement ils sont plus faibles, mais ils vont rester plus faibles. Donc les pays émergents vont continuer à croître plus vite que les pays occidentaux. Le seul moyen pour les pays occidentaux de ne pas être distancés et de ne pas perdre leur contrôle en quelque sorte sur la marche du monde, c'est de s'unir plus étroitement pour imposer des normes que les pays émergents seraient obligés de suivre et qui en quelque sorte ralentiraient leur marche à la puissance.
C'est comme un poignard, comme un tranchoir, quelque chose sans espoir qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir pas trop serein. C'est comme un cauchemar, tapis dans le noir, qui s'avance doucement et se déguise en bien au profit des Européens. Le voilà, il là, oh, 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 je ne sais quoi, oh, 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 que d'autres n'ont pas, qui nous mettra dans un drôle d'état, tafta, il là, tafta, tafta. Nous aura pas. On s'occupera de toi. Crois-moi, crois-moi. Taf, taf, taf.
On dit techno ?
Ah oui, on dit techno.
Antoine Calvino.
Bonjour.
Bonjour. Ces grandes réunions et cette musique répétitive. Vous êtes déjà allé ?
Ah oui, oui, moi je fréquente assidûment les fêtes techno. Ce que je trouve intéressant, c'était d'expliquer dans le monde diplomatique, c'est que...
Vous aimez la musique quand même ? Ou c'est par haine de la musique que vous allez...
Ah, j'aime bien ces questions-là. Bien sûr que j'aime la musique. Les gens extérieurs à ce phénomène ont l'impression que c'est une musique strictement festive quand ils acceptent de la voir comme une musique. Et une musique vide de sens du fait de son absence de paroles et même parfois aliénante en raison de son rythme très répétitif. Et en réalité, la fête techno et les rêves des années 90 en particulier portent un message qui dépasse le simple hédonisme. C'est un message qui a beaucoup varié suivant les pays qu'elle a gagnés successivement.
Hier, on a parlé de ces autoroutes de la drogue dont la porte d'entrée en Europe est bien souvent aux Pays-Bas. Aujourd'hui, les victimes.
TF1, 18 octobre 1994.
Les plus vulnérables, eh bien, c'est sans doute nos enfants. Et un phénomène inquiétant est en train de se développer. Des soirées musicales qui se développent notamment dans la région parisienne. Et derrière ces soirées, il y a un véritable marché de la drogue. Ces soirées s'appellent les soirées rêves.
Psychiatrique partie, rendez-vous à partir de 23h30 à la gare RER de Massy-Balézot.
Un répondeur en guise d'informateur et tous les initiés convergent vers ce lieu tenu secret jusqu'au dernier moment.
Tout commence aux États-Unis au milieu des années 80. En gros, elle est apparue conjointement dans deux villes, à Détroit et à Chicago, dans deux contextes sociaux différents. À Détroit, elle est née dans la communauté noire d'une ville dévastée par la crise de l'industrie automobile, une communauté en difficulté et très concernée par la lutte pour les droits civiques. Et beaucoup d'artistes, en particulier ceux du label Underground Resistance, se sont situés dans la lignée des engagements militants des artistes de la Motown, ce label de Soul, et dans la lignée donc des engagements d'artistes comme Marvin Gaye et Stevie Wonder, qui se sont politisés à la fin des années 60, après les émeutes qui ont suivi les assassinats de Martin Luther King et de Malcolm X. Et de façon plus contemporaine, ces artistes d'Underground Resistance se sont inspirés de la posture militante du groupe de rap Public Enemy, qui critiquait l'establishment blanc des années Reagan. Alors évidemment, ça paraît étrange d'ici, puisque la techno est une musique muette, mais le message passé...
Muette ?
Ben, c'est une musique muette, puisqu'une musique instrumentale.
Oui, deux notes, le maximum de volume.
Je vous invite
à... Quelques cachets d'extasie. Et...
Je vous invite à en écouter, mais...
Ah oui, j'en ai écouté.
mais effectivement, c'est une musique qui ne parle pas, il n'y a pas de parole. Mais le message passait via les titres des morceaux, les pochettes des disques, les discours des artistes, donc soit en interview, soit directement gravé en toutes lettres sur les vinyles de ces années-là. C'est amusant, vous avez des vinyles avec une face A avec de la musique, la face B a été gravée, on a l'impression que c'est gravé au stylet. Ils essayent de faire passer leur message de façon plus claire.
Quel message ?
Eh bien, ce sont des messages d'égalité entre les races, des messages où ils s'en prennent au capitalisme, au fonctionnement de la société américaine des années 80.
Et ça continue aujourd'hui ?
Oui, ça continue aujourd'hui. La techno a une cousine qui s'appelle la house, qui est plus proche de la disco, qui est apparue à Chicago à la même époque. Là encore, dans la communauté noire, mais homosexuelle. Là, les revendications sont un peu différentes. Et elles sont plus explicites, puisque les premiers tubes du genre étaient chantés. Et ils évoquaient clairement un monde où chacun vivrait en harmonie, sans distinction de couleur, de religion, de genre ou de préférence sexuelle. Là, on a effectivement un message plus clair. Mais la techno et la house ont beaucoup voyagé, puisqu'elles sont nées aux États-Unis où elles sont restées confidentielles. Elles ont explosé quand elles sont arrivées en Europe, et en particulier en Angleterre, à la fin des années 80. Effectivement, vous parliez de l'ecstasy tout à l'heure. Ce qui a fait exploser le phénomène, c'est qu'elle est arrivée en même temps que cette drogue qui procure euphorie, empathie et hypersensibilité à la musique. Et la conjonction de cette...
Et c'est très mal, n'en prenez pas. Je m'adresse aux auditeurs.
je prendrai pas parti. Et la conjonction de cette musique répétitive qui induit une transe et de cette nouvelle drogue a provoqué dans les fêtes la création d'une bulle de lâcher prise, un terrain de jeu hors du temps, où les gens ont vécu l'expérience d'un univers où tous les milieux sociaux se mélangeaient. C'est-à-dire que toutes les tribus se sont donné rendez-vous dans ces fêtes. Les rockers, les rastas, les homosexuels, même les hooligans qu'on voyait débarquer là-dedans. Ils se sont tous retrouvés à faire la fête ensemble. Et non pas à faire la fête en regardant comme dans un concert de rock, en regardant la scène, mais à faire la fête tourner les uns vers les autres. Et pas comme dans un concert, ça dure pas deux heures. Une fête techno, ça peut durer 10, 12, 15 heures, ça dure très longtemps. Donc on a vraiment le temps de faire connaissance et de vivre ensemble et de faire la fête avec des gens qu'on n'aurait jamais vus autrement.
Vu, mais on ne peut pas parler du tout.
Si, on peut parler. C'est-à-dire qu'il y a des espaces dans la fête techno où il y a de la musique forte et d'autres espaces qui sont prévus pour la discussion, qui sont tranquilles. Où les gens...
C'est quand on rentre à la maison le lendemain qu'on peut...
Pas du tout. Ça a même un nom, ça s'appelait des chill-out. C'est-à-dire des endroits où on peut se poser pour discuter au calme et faire vraiment connaissance. Et donc les gens se sont dit, tiens, mais c'est un monde où tout d'un coup, tout le monde peut se rencontrer. Et si ça préfigurait un monde meilleur, on a parlé d'un Éden, c'était un mot qui revenait souvent. Et cet Éden, en fait, a pris une autre forme dans les autres pays d'Europe ou du monde qui ont été gagnés par cette musique successivement. En Allemagne, ça a été la bande-son de la réunification, puisque en particulier à Berlin, c'est l'endroit où les jeunesses de l'Est et de l'Ouest se sont rencontrées. C'est le premier endroit où les Allemands de l'Est et de l'Ouest, en fait, ont appris à vivre ensemble et ont fait connaissance. Ensuite, elle a gagné l'Inde, à Goa, où c'est une musique qui a eu du succès dans la communauté hippie qui vivait depuis les années 60. Ça a donné une connotation internationaliste au message de cette fête. Et puis ensuite, il y a l'exemple de la France, qui est un peu particulier, puisque la France a très vite été confrontée à la répression, ce qui a obligé donc la scène à se réfugier loin des villes, dans les campagnes, dans les friches industrielles, où elle a été confrontée aux forces de l'ordre, aux autorités qui empêchaient en fait la fête d'avoir lieu. Et donc ils se sont réfugiés dans le secret et se sont mis à plus travailler du tout dans le système, à être en autogestion. Et petit à petit, ils ont théorisé leur posture. Ils se sont dit, mais oui, effectivement, nous sommes des anarchistes, nous vivons dans une zone d'autonomie temporaire. Et ça, c'est un concept qui avait été développé par Hakim Bey, un sociologue américain, pour parler des utopies pirates du XVIIIe siècle. et ils ont récupéré ce concept-là. Et donc, ils ont fini par avoir une vision politique de la fête, ce qui était finalement assez intéressant.
Continue avec le diplôme du mois de juin et on va parler du Sri Lanka. À chaque fois, on s'est dit, alors, qu'est-ce que c'est déjà le Sri Lanka ? Ah oui, il y a les Tamouls, il y a les Singhalais, il y a les Bouddhistes, il y a les Hindous. C'est quand même assez compliqué. On connaît le quartier Sri Lanka de Paris, mais...
Le Sri Lanka, ancienne colonie britannique, qui a eu son indépendance en 1948... 25 ans de guerre civile qui se sont terminés dans un invraisemblable bain de sang en mai 2009 avec des pertes estimées à peu près à 40 000 morts pour un conflit qui au total en aurait fait 140 000 plus une bonne dizaine de milliers de disparus. 25 ans de guerre civile entre la minorité tamoule, 20% de la population à peu près, présente dans le nord et l'est du pays, et la majorité singhalaise bouddhiste, qui est au pouvoir à Colombo. Avant la colonisation britannique, il y avait des royaumes tamouls et singhalais sur l'île. Uh-huh. Et les Britanniques ont laissé un État unitaire là où il y avait plusieurs États. Et surtout, ils ont utilisé les tamouls qu'ils trouvaient plus éduqués comme relais du colonialisme. Donc, à l'indépendance en 1948, les Tamouls se sont retrouvés dans la position inconfortable d'une minorité ayant bénéficié d'une occupation étrangère. Résultat, quand les élections ont eu lieu, les Singhalais ont voté pour les Singhalais et ont considéré la démocratie, si vous voulez, comme la loi de la majorité. Et ils ont très vite mis en place un système de discrimination qui est partiellement reconnu aujourd'hui par les intellectuels singhalais, système de discrimination auquel les Tamouls ont répondu par des manifestations, d'abord pacifiques, puis de plus en plus violentes parce que de plus en plus réprimées, jusqu'à la fondation en 1976 d'un mouvement armé baptisé du doux nom de TNT au départ, Tamil New Tigers, mais qui est devenu ensuite le LTTE, à savoir Liberation Tigers of Tamil Eelam, c'est-à-dire Tigre de Libération du Pays Tamoul. Ce mouvement s'est vite caractérisé par son absence de scrupules, on va dire, autour d'un chef suprême dénommé Velupillai Prabhakaran. J'ai été dans la zone contrôlée par les Tigres en 2003 et c'était tout de même assez effrayant. À savoir qu'il y avait des cultes de la personnalité organisés autour du chef, il y avait des contingents d'enfants soldats et on pouvait voir les Tigres traiter très durement la population. J'ai vu une escouade de Tigres traverser la foule en se taillant un chemin à coups de crosse sur la population tamoule. Bon bref, la guerre a été extrêmement, extrêmement dure, si vous voulez, des deux côtés. Hein. C'était une guerre très méconnue en Europe, mais en France, bon, ça paraissait très compliqué. En plus, bon, c'est très difficile de savoir qui sont les bons, qui sont les méchants.
Voilà, c'est ça.
C'est complexe et c'est sans merci, si vous voulez. Il y a une période de guerre, si vous voulez, d'une vingtaine d'années, suivie d'un cessez-le-feu. Cessez-le-feu en 2002, où les Tigres se sont sentis en position de force et ils ont négocié sur une position très dure, à savoir un État séparé au nord, sinon rien. Position inacceptable pour le gouvernement. Les négociations se sont très vite enlisées jusqu'en fin 2005 où il y a un candidat à la présidentielle, Mahinda Rajapakse, qui a dit aux Singhalais « Bon, maintenant ça suffit, on y va, je prends le pouvoir et on écrase les Tigres ». Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris le pouvoir en novembre 2005 avec l'aide de la Chine qui avait besoin, si vous voulez, d'un allié à long terme face aux géants indiens. Avec l'aide de la Chine, il a écrasé les Tigres de façon impitoyable. Et ça s'est terminé par une offensive finale entre janvier et mai 2009, où à peu près 40 000 personnes ont été tuées. Et là, je suis revenu au Sri Lanka en février dernier, dans ces zones du nord, qui sont maintenant entièrement contrôlées par l'armée. Il y a eu des élections où la population a voté à 80% pour les partis tamouls. Il y a un conseil provincial élu dans le nord, mais ce conseil provincial n'a aucun pouvoir. Il y a une présence militaire très forte, et il y a des exactions commises par l'armée. Bon, des jeunes filles se plaignent du comportement des soldats, je vous laisse imaginer. Il y a des vols de terre, et la population se plaint, ne peut rien faire, mais est extrêmement frustrée, si vous voulez, de cette présence militaire et de cette absence de voix. Il n'y a pas eu de processus de réconciliation. Et donc, cette population frustrée commence, si vous voulez, à entretenir le mythe comme quoi les Tigres, c'était quand même finalement pas si mal, malgré leur totalitarisme, malgré la présence massive d'enfants soldats. Le phénomène est assez incroyable. Parce qu'en 2003, quand on y était, les gens se plaignaient des Tigres et maintenant, ils les regrettent. Pourquoi ? Parce que le boulot n'a pas été fait. C'est-à-dire, les Sri Lankais ont gagné la guerre, si vous voulez, mais ils n'ont pas gagné la paix, puisqu'il n'y a pas eu de processus de réconciliation. Le président Rajapaksa aurait dû mettre tout le monde autour d'une table en 2009. Il ne l'a pas fait. Et là, la frustration augmente. Et c'est pour ça que j'ai titré mon reportage « Des braises couvent sous le béton », puisqu'il y a fort à craindre que, d'ici quelques années, la violence reprenne dans le nord du Sri Lanka.
En tout cas, c'est un excellent reportage. Hein, c'est Cédric, gouverneur.
Tous les 4 ans, le monde entier oublie la politique, les différences. Tout le monde a le même rêve, le même but. Tous de la même nation, celle du football. C'est ça la Coupe du Monde. Le plus grand événement sportif de la planète.
On continue avec le diplôme du mois de juin. Le diplôme parle de foot. Et c'est David Garcia qui, dans le diplôme, parle des supporters. À ceux qui trouvent les supporters insupportables, David Garcia répond.
Ce qu'on peut répondre, c'est qu'en Europe, comme au Brésil, les groupes de supporters n'ont pas toujours très bonne réputation. Enfin, soit on les présente quand ils sont très contents et soutiennent leur équipe, soit on les présente comme des hordes de hooligans hyper violents. Et il est vrai qu'ils se sont distingués, certains d'entre eux, au Brésil, par quelques faits divers assez dramatiques. Hein. En décembre dernier, dans une ville qui s'appelle Joinville, dans le sud du Brésil, il y a eu des affrontements très violents entre supporters rivaux qui ont fait 4 blessés graves, plein de blessés. Début février à Sao Paulo, qui accueillera aussi la Coupe du Monde bien sûr, des supporters de la même équipe se sont tapés dessus entre eux. Ils ont même essayé d'agresser les joueurs parce qu'ils n'avaient pas de bons résultats. Ces phénomènes un peu préoccupants ont fait dire à des intellectuels et notamment à un sociologue brésilien « Ces voyous ne sont pas des supporters mais des trafiquants de drogue ou des bandits. Ils sont difficiles à éliminer. »
Voilà, bon, comme ça c'est clair.
Comme ça c'est clair.
C'est Veolia qui passe là, hein, qui est en train de se venger des propos qu'on tient depuis tout à l'heure. Ils sont en train de faire le ménage dans cette rue. C'est pas possible, ça fait 12 fois qu'ils passent. Donc je pense qu'il y a un commando Veolia qui est en train d'essayer.
Donc depuis 88, 234 supporters ont trouvé la mort au Brésil. Hein. Ce qui a fait dire à Pelé, hein, le grand Pelé, grand footballeur, qui a été ministre des Sports au Brésil, hein, ouais, on a tendance à l'oublier, les hooligans sont en train de tuer notre sport. Et ben ce genre de discours rappelle des discours qu'on a entendus en Europe il y a une vingtaine d'années, notamment en Angleterre. Alors là, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut savoir que la montée de la violence dans le foot en Angleterre a coïncidé avec l'émergence justement du foot business, tout ça dans les années 70 et 80. Et il se trouve qu'une fraction de la classe ouvrière britannique, le foot en Grande-Bretagne au départ est très populaire, une fraction de cette classe ouvrière s'est sentie dépossédée du club qu'elle soutenait. Et alors plutôt que de soutenir son équipe de façon traditionnelle, en chantant, mais en étant gentil avec son équipe, ils ont préféré, donc les hooligans, c'est ce qui a fait leur marque de fabrique, affronter les bandes rivales de l'équipe adverse. Alors ce phénomène s'est rapidement étendu au reste de l'Europe, donc les supporters ont beaucoup admiré ce type d'affrontement.
David Garcia, donc la violence, c'est à cause du foot business.
Ce serait un peu réducteur de dire ça. C'est pas uniquement ça. Et ce serait présenter les hooligans comme des gens sympathiques. Au départ, il y a de ça. Et après, les hooligans, c'est pas uniquement des prolos, des ouvriers. Bon, la sociologie, c'est plus compliqué. Mais au départ, il y a un peu de ça. Et on l'occulte complètement. Et on occulte aussi que ça s'est développé en même temps que le mouvement punk. Et donc, il n'y avait pas que de la violence gratuite. Il y avait aussi une forme de remise en question par rapport à un foot qui était en train de leur échapper, notamment un foot populaire. Parce qu'en Angleterre, il y a un attachement. Le club du foot, c'est le club du quartier. Et il y a toute une vie associative, collective derrière. C'est pas juste on boit des bières, on se tape dessus. Même si c'est aussi ça. Donc dans les années 80, il y a des drames épouvantables, le drame du Hazel donc à Bruxelles, le drame d'Hillsborough dans le nord de l'Angleterre à Sheffield, des dizaines de morts. Donc c'est le gouvernement de Margaret Thatcher qui décide d'en finir avec le phénomène hooligan, donc répression policière très importante, mais en réalité
augmentation du prix des places, voilà, des entrées,
en réalité,
des cotisations.
C'est pas tellement la répression policière qui est venue à bout du phénomène hooligan, c'est plutôt la construction de nouveaux stades et d'un nouveau modèle. Avant, jusqu'aux années 90...
Et d'un nouveau public plus friqué.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y avait des tribunes debout, et donc les gens se massaient, et c'était dangereux parce qu'il y avait des grilles, et c'est ça qui a fait que des gens mouraient écrasés. Donc on rase les anciens stades, on en finit avec les tribunes debout, donc des places assises, c'est très confortable, très très cher, des loges VIP, et le résultat, c'est que tous ces supporters les plus modestes n'ont plus les moyens de se payer des abonnements. Alors, il y avait des hooligans, donc on pourrait dire, bon, au moins, les violents ne viennent plus, sauf qu'il n'y avait pas que des hooligans, bien sûr, et il y avait aussi des gens modestes qui ne peuvent plus se payer un abonnement. Un exemple, un abonnement annuel à Arsenal, hein, le club londonien d'Arsenal, ça coûte 1155 euros. On peut imaginer qu'un ouvrier ou un chômeur qui ne gagne pas beaucoup ne peut pas se payer un billet.
Avec ça, il peut payer sa cotisation au Rotary de Bordeaux.
Oui, sans doute. Et en même temps que les stades étaient pacifiés en Angleterre, les principaux clubs anglais se faisaient racheter par des grosses fortunes ou des fonds d'investissement. Un exemple, Manchester United, un grand club anglais, qui passe sous contrôle du milliardaire américain Malcolm Glazer en 2005. Et c'est là que commence à se constituer une forme de résistance justement des supporters. Une frange des supporters de Manchester United refuse ce rachat en disant non. Et ils décident de créer leur propre club, le Football Club United. Alors, ce club, le FC United, est totalement autogéré par les supporters. Hein. C'est une coopérative, en fait, le FC United. Et ça fonctionne selon le principe un homme, une voix. Donc, il y a des assemblées générales qui désignent les dirigeants.
Depuis quand, ça ?
Depuis 2005.
Ah ouais.
Et alors, il y a des débats sur... Alors, bon, une fois qu'on s'installe, il y a un phénomène d'enthousiasme. Mais après, il faut bien vivre, donc il faut trouver de l'argent. Et la question s'est posée de savoir s'il fallait faire venir des sponsors. Ah. Et il y a une partie qui ont proposé de faire venir McDonald's. Alors, ah. Ça a été mis au vote. Alors, à 95%, les supporters ont dit non à McDonald's. Et avec ce slogan, non à McDonald's United. Voilà, donc ça s'est réglé. Bon, après, il faut être honnête, hein, le FC United est un club de 7e division. Hein. Alors, oui. C'est un club modeste, mais libre et indépendant. C'est ce qu'ils disent beaucoup là-bas, ils disent beaucoup ça avec fierté. Donc ça, c'est pour l'Angleterre, hein, qui était pionnière. Autre exemple aussi de démocratisation, de lutte citoyenne des supporters contre le foot business, l'Espagne. Jusqu'au début des années 90, les clubs appartenaient aux socios. Socios, en espagnol, ça veut dire les sociétaires. Donc, même système, coopératif. Mais le gouvernement socialiste de l'époque, de Felipe González, a dit que ça nuisait à la compétitivité du foot espagnol, qui ne se portait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et il a dit, il faut en finir avec ce système. Donc, seuls 4 clubs ont conservé le système de socios. Barcelone, Real Madrid, Bilbao et Osasuna. Et ça, évidemment, ça a fait beaucoup de mécontents. Donc, il y a aussi un mouvement de lutte, de résistance. Et je cite l'exemple d'un club de foot qui a fait beaucoup parler de lui, l'Atlético Madrid. Hein, l'Atlético Madrid qui a eu de très bons résultats en Ligue des Champions et qui était dirigé par un personnage très, très recommandable, un certain Jesús Gil, ancien maire de Marbella, ultralibéral, xénophobe, condamné pour corruption, qui a mis la main sur le club de façon totalement illégale. Et une association de supporters qui s'appelle Señales de Humo, donc signaux de fumée en espagnol, depuis 10 ans, bataille devant les tribunaux et fait extraordinaire. En février dernier, le tribunal leur a donné raison et a annulé une augmentation de capital, ce qui ouvrirait la voie à une expropriation du club qui n'appartiendrait plus à ses actionnaires. Et donc, bon, ça c'est au conditionnel, les supporters et les actionnaires minoritaires pourraient élire un nouveau conseil d'administration. Après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on pourrait dire, si on est un peu optimiste ou un peu utopique, ça pourrait être l'ébauche d'une petite alternative au tout business dans le foot.
Merci.
Dennis Law running beautifully. Dennis Law there, and the ball is still there. It's free. Dennis Law, and he scores!
Now football is a pleasant game. Play in the sun, play in the rain, and the team that gets me excited. Manchester United. Manchester. Manchester United. A bunch of bouncing Busby babes. They deserve to be knighted. If ever they're playing in your town, you must get to that football ground. Take a lesson, come to see. Football taught by Matt Busby and Manchester. Manchester United. A bunch of bouncing Busby babes. They deserve to be knighted.
Greatest team today. If you don't believe me, go and see them play. A type of football second to none. Now they're at the top of Division One.
Who? Manchester. Manchester United. A bunch of bouncing Busby babes. They deserve to be knighted.
On va aller dans l'immense Russie, dont les paysages sont très souvent caractérisés par le chauffage, hein, par ces tubulures qui traversent les villes, qui traversent les rues, qui chauffent cet immense pays. À chaque fois, je me dis, mais le boulot que ça a été pour installer ce chauffage jusqu'au fin fond de la Sibérie. Et aujourd'hui, c'est un enjeu et un problème extraordinaire, parce qu'on sait bien, ceux qui ont voyagé un peu en Russie, le gâchis extraordinaire de chauffage, la déperdition extraordinaire d'énergie que ça représente.
Et Hélène Richard s'est intéressée à ce sujet, la Russie vue par son chauffage.
C'est Régis Janté qui a écrit cet article. Il s'est intéressé justement à la question du chauffage en Russie, donc un pays où les températures peuvent descendre à moins 25 en hiver à Moscou, moins 40 dans certaines régions sibériennes, et qui, ça étonnera personne, est un sujet de préoccupation important pour la population russe. Parce que la facture de chauffage chaque année s'élève, et pour un service de piètre qualité. Le gouvernement russe, à cet égard, a commencé à ouvrir le secteur du chauffage aux acteurs privés. Mais il faut souligner qu'il avance avec prudence sur cette voie. Le gouvernement joue gros. Il est question, en réalité, du soutien populaire au régime de Vladimir Poutine et en particulier au soutien électoral que lui apportent encore les régions sibériennes, à lui, son régime et à son parti russe.
Il faut dire que le chauffage est gratuit.
Alors le chauffage était gratuit, c'est plus exactement le cas. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'à la veille de la chute de l'Union soviétique, en 1990, le chauffage, mais plus généralement le logement, était quelque chose comme un service public, un droit social. Et les Russes consacraient moins de 2% de leurs revenus annuels pour se loger, pour se chauffer, pour consommer de l'eau.
C'était quand même mieux avant, c'est un peu comme les tigres tamouls.
Ce point de vue-là, effectivement, c'était mieux avant. Aujourd'hui, cette ère socialiste, communiste est déjà derrière les Russes, puisque les dépenses relatives au logement pèsent entre 8 et 10% aujourd'hui en Russie sur le budget des ménages. Malgré tout, l'attachement des Russes à un service public du chauffage reste fort et le pouvoir a pris soin de ne pas s'engager trop violemment dans la voie d'une libéralisation de ce secteur. Donc, pour les Russes, se chauffer, plus généralement se loger, ça reste perçu comme un besoin de base, une garantie que l'État doit apporter à ses citoyens, un peu comme pour nous l'éducation ou la santé, vous voyez. Alors c'est ce que la population russe a rappelé aux autorités en 2005, quand le gouvernement a tenté de revenir sur certains droits sociaux hérités de la période socialiste. Et dans le lot, il y avait des mesures qui remettaient en cause la gratuité totale ou partielle du chauffage pour certaines catégories sociales, notamment les vétérans de guerre, les retraités. Résultat, plus de 500 000 personnes sont descendues dans la rue. On s'en rappelle pas trop, mais ça a été les premières manifestations d'ampleur depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. La population, elle est attachée à ce service public de chauffage, mais en même temps, elle est assez insatisfaite de la qualité du service. Le point noir sont les infrastructures. Elles sont obsolètes. On est dans un système, comme vous l'avez rappelé, qui a été construit donc en Union soviétique, de chauffage central urbain, avec des chaufferies peu efficaces, des tuyaux où il y a beaucoup de déperdition de chaleur. Donc la question, c'est comment on met à niveau ces infrastructures peu efficaces. Et la question épineuse, c'est qui payera. La puissance publique a perdu de ses marges de manœuvre. Et puis les acteurs privés, eux, ils promettent de pouvoir prendre le relais d'un investissement public pas haut niveau. Simplement, ils demandent à avoir les coudées franches pour fixer des tarifs plus élevés, etc. Alors Vladimir Poutine, lui, il y réfléchit à deux fois avant de privatiser le secteur du chauffage. Il a brigué son troisième mandat dans un climat de défiance. Et puis les élections présidentielles qui ont suivi ont montré que sa base électorale s'était considérablement effritée. Alors aujourd'hui, depuis le rattachement de la Crimée à la Russie, sa cote de popularité s'est redressée considérablement avec un élan patriotique.
Ça sert à ça, ce genre d'histoire.
Hein. Voilà, c'est effectivement...
Là aussi, vieille ficelle.
Vieille ficelle. Simplement, la question, c'est combien de temps pourra durer la ficelle. Et voilà. Si les questions sociales, et notamment en particulier la question du chauffage, pourra être enterrée longuement.
Ouais, c'est un angle, en tous les cas, très malin et très perspicace. Pour montrer ce qui se passe.
Et voilà, merci à tous, merci à toutes. C'était le diplo du mois de juin. Comme chaque mois, vous le savez, on se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique, Renaud Lambert, Benoît Bréville, Serge Halimi, Antoine Calvino, Cédric Gouverneur, David Garcia et Hélène Richard étaient autour de notre micro. Merci aussi à Anne Calais-Chavanel. Une précision, Serge Halimi et Renaud Lambert seront présents aux prochaines rencontres d'économiques les 4, 5 et 6 juillet à Aix-en-Provence. Toutes les infos et les programmes sont sur le site des Déconomistes. d'économiste.org. et votre serviteur sera dans les parages également. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Serge Viguier et Gaël Braouzek. Au montage, Jonathan Duhong. L'émission a été réalisée par Lucie Hakoun et Franck Allerère. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h sur France Inter. Pour l'instant, je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce qui se passe ici, madame ?
Oh, vous savez comme nous.
Ah non, moi, j'ai rien du tout.
Ah non, vous savez rien ? Vous venez sur des lieux comme ça sans savoir où vous allez ?
Bah oui, c'est le plaisir de la découverte.
Ah oui, vous voyez fond pour les femmes de la Méditerranée, ça vous parle pas ?
Ah non, j'ai pas vu, j'ai vu Cabaret Sauvage. Alors je me suis dit, tiens, Cabaret Sauvage.
Il est sauvage tout le temps, il est sauvage tout le temps, ce cabaret.
Et alors, qu'est-ce qui se passe là ce soir ?
Eh bien, c'est une soirée de gala pour soutenir toutes les actions qui se font en faveur des femmes de la Méditerranée.
Et en quoi ça vous concerne ?
Ça nous concerne parce que d'abord...
À part que vous soyez des femmes.
On est sur une rive et on soutient toutes les rives de la Méditerranée et toutes les femmes de la Méditerranée.
Et toute la formation des femmes, parce que ça sert beaucoup à former les femmes d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, mais surtout de l'Algérie.
Et c'est la première fois qu'il y a un gala comme ça ?
Pas du tout. C'est vous qui le découvrez.
Mais ben oui.
Non, on vient à chaque fois.
Chaque année.
C'est vrai ?
Oui, chaque année.
Alors, qu'est...
On vient de Lyon.
Non.
Oui.
Mais c'est pas la Méditerranée, ça.
Bon, comment presque. Ça attendez, on a plein de Méditerranéens à Lyon.
Bonjour à tous et bienvenue au Cabaret Sauvage en compagnie de...
Marie-Martine.
Françoise.
Nous, ça fait 15 ans, bientôt 20 ans qu'on milite dans une association qui s'appelle Femmes contre les intégrismes. Ah oui. Et avec laquelle on a des échanges depuis 15 ans avec des Marocaines, des Algériennes, des Tunisiennes qui luttent pour leurs droits. Et elles en ont pas beaucoup. Et voilà, elles veulent s'émanciper et on travaille ensemble.
Et alors, votre association, concrètement, qu'est-ce que vous faites contre l'intégrisme ?
On lutte. On lutte.
Vous arrachez les voiles, quoi ? Vous faites quoi ?
Non, pas du tout. On n'est pas des sauvages.
C'est pas ce qu'on est au Cabaret Sauvage.
Non, justement, on n'est pas des sauvages. On pense que beaucoup sont quand même manipulés, n'ont pas vraiment le choix. Il y en a sûrement quelques-unes qui en font une conviction et puis qui s'affichent pour la montrer. Et je pense que beaucoup n'en ont pas envie. Et on a milité justement avec des femmes qui n'étaient pas sous le voile avant et qui le sont maintenant parce que leurs fils leur font de la pression en disant que ce n'est pas des bonnes musulmanes, etc., etc. Et que nous, nos amis musulmanes, nous disent mais ce n'est pas du tout dans le Coran, ce n'est pas du tout indispensable. Et nous, on se bat dans nos pays pour que ça ne se passe pas comme ça, pour que la laïcité, la mixité, l'égalité soient développées et que les femmes trouvent leur place dans la sphère publique et on les met sous des voiles pour les cacher. Donc c'est des fantômes et elles n'ont plus de visibilité, ce qui est juste le contraire de la liberté.
Qu'est-ce que vous faites là, vous ?
Je viens pour danser.
C'est vrai ?
Je viens pour présenter notre association, les femmes qui organisent Cities Amis et financent nos projets avec la caravane d'au Maroc, Caroline Braque, la Ferrière, l'association qui organise aujourd'hui. On est là, on fait qu'est-ce qu'on peut, on se présente et voilà.
Mais vous vivez où, vous ?
À Lyon.
À Lyon, ah aussi,
c'est
d'accord.
C'est le gang des Lyonnais, là.
Ah oui, excusez-moi, je suis cerné, là.
Je viens de Lyon.
Mais ce petit accent, c'est pas l'accent lyonnais, ça ?
Non, c'est pas l'accent lyonnais, je suis berbère, algérien. Et voilà, mais je suis française avant tout.
Vous êtes né à Lyon ou vous êtes arrivé
Non, je ne suis pas né à Lyon, j'arrivais à l'âge de 24 ans en France. Je suis né en Algérie, c'est pour ça que j'ai mon accent, là.
Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé en France à 24 ans ?
Bah, qu'est-ce qui m'a frappé quand j'étais arrivée en France ? Surtout, on pouvait parler la liberté, l'égalité, les droits des femmes. Parce qu'à l'époque, je ne connais pas ça. On n'entend pas parler des droits des femmes. On est obligé de subir ce qu'on dit. D'ailleurs, moi, je suis mariée à 15 ans. J'ai mon fils à 15 ans et demi. Je pensais que c'était normal. Parce que voilà, tout le monde fait ça. On pensait que c'était normal. Mais en arrivant en France, c'est la seule chose qui m'a frappée de parler de ce qu'on a subi, de dire que c'était... On est victime, qu'est-ce qu'on vient de subir, c'était interdit, ça n'existe pas dans les lois. voit, on fait pas ça aux femmes. Il faut que la fille elle va à l'école, il faut qu'elle apprenne à lire et écrire, il faut qu'elle elle fait ses rêves de jeunesse avant de se marier, avant de voir les enfants. Ça, c'est vraiment, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup les yeux. Et grâce à la France que j'ai avancé, que je témoigne aujourd'hui, tant mieux avant, on ne parlait pas, je pensais que tout est normal.
Et quand vous êtes arrivé à 24 ans, vous êtes arrivé avec votre mari et votre fils ou c'est, vous avez fui?
J'ai 12 enfants, une fille et un garçon.
D'accord.
Ils sont là d'ailleurs aujourd'hui.
Ah oui?
Voilà, ils sont à l'intérieur. J'arrivais avec mon fils qui a 9 ans et ma fille qui avait 4 ans. Que j'ai laissé faire leur droit d'aller à l'école, de choisir leur mari, leur copine.
Wow. Toute cette liberté-là?
Toute cette liberté, je l'ai prise grâce à la France, parce qu'en Algérie, moi, je n'ai pas eu cette chance. Tout ce que moi, je l'ai pas eu dans ma jeunesse et je l'ai laissé à mes enfants.
Et
la
votre,
liberté.
Et votre mari de 15 ans, il est resté en Algérie, lui?
Il est toujours en France, mais on a séparé. Dès que j'ai compris que c'était un mariage forcé, j'ai séparé. Voilà.
Ah,
bah oui, on ne peut pas vivre un mariage d'amour quand on ne s'aime pas, quoi. Voilà, c'est ça. Après, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai décidé. Je vis avec un Français, je suis heureuse. Franchement, ça fait 25 ans qu'on est ensemble.
Ah oui.
Et voilà, c'est vraiment... Vive la France. Vive la liberté.
Et vous travaillez
des... Je travaille, voilà. Je fais qu'est-ce que je peux. Je suis intégrée.
Autonome.
Autonome, tout. J'ai ma carte bleue, j'ai mon chéquier, ma voiture, tout, monsieur. Franchement, c'est... Voilà.
Et je peux vous demander votre métier?
Je suis gardienne d'immeubles avec les personnes âgées. Je travaille avec les personnes âgées. J'ai marié à 15 ans, je n'ai pas fait les études. Hein. Ah bah oui, j'ai travaillé à l'usine avant, après j'ai arrivé là où je suis maintenant. Voilà, je suis fière, hein, l'essentiel. Je travaille, je gagne des sous et voilà. Voilà, je demande une aide à personne, voilà.
Et votre prénom?
Attika.
Alors pour en savoir plus, ce n'est pas compliqué. Il y a l'association fci-assos.org.
Attends, Pochon, c'est terminé aujourd'hui. On se retrouve demain. Voilà, à bientôt.
Je peux faire une photo?
Oui, si vous voulez.
Hé, hey, vous? Oui, vous, derrière la radio. Vous faites quoi le 14 juin pour la journée mondiale des donneurs de sang? Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. Des vies. Venez, on a besoin de vous.
Faisons du 14 juin un grand jour pour la vie. Donnons notre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondusang.net. Ceci est un message de l'établissement français du sang.
Folie, sexualité, pouvoir. Michel Foucault, figure iconoclaste de la philosophie. Le film « Foucault contre lui-même » de François Kaya explore de manière inédite le parcours complexe de ce penseur hors norme. À retrouver en DVD avec en complément deux entretiens de Michel Foucault. « Foucault contre lui-même », un DVD INA Édition.
Il est presque 16 heures. Vous êtes en chemin pour récupérer votre père à la gare. Vous vous dites que limiter cette départementale à 90 n'a pas de sens. Vous vous dites que rien ne vous empêche de rouler à 110. Ce que vous oubliez, c'est qu'à cette vitesse, vous ne pourrez pas éviter ce tracteur à la sortie du virage. À cause de cet oubli, votre père vous attendra longtemps. Très longtemps.
On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous responsables.
Vous écoutez France Inter, il est 16h01. Les informations, Pierrick Bonneau.
Un week-end de la Pentecôte qui a les allures de week-end du 15 août. Plus de 2000 interventions des pompiers depuis ce matin en France. Vague d'orage qui a fait des dégâts dans beaucoup de départements, notamment en Île-de-France, frappée la nuit dernière par des averses de grêle. Des toitures arrachées, des caves inondées. 32 départements sont toujours placés en alerte par Météo France. Attention donc aux orages localement violents. L'alerte court jusqu'à demain matin, 6h. Soyez prudents, d'autant plus si vous prenez la route. Et vous serez nombreux ce soir dans le sens des retours. La journée est classé orange vers toutes les grandes agglomérations jusqu'à la fin de la soirée. Notez qu'il pourrait y avoir des perturbations dans les transports à partir de demain soir, 19h. Rien à voir avec les intempéries. Grève à la SNCF contre le projet de réforme ferroviaire examiné à l'Assemblée la semaine prochaine. 4 syndicats de cheminots ont déposé un préavis reconductible et puis plusieurs fédérations de taxis appellent à manifester mercredi contre la concurrence des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. Faire passer un message d'unité et de rassemblement après les cérémonies des 70 ans du débarquement en Normandie. François Hollande était sur ses terres corréziennes cet après-midi pour un hommage aux pendus de Tulle, 99 Français tués par les nazis le 9 juin 1944. Demain, le Premier ministre Manuel Valls sera à Oradour-sur-Glane, village de Haute-Vienne dont plus de 600 habitants ont été massacrés le 10 juin. Au moins 27 morts au Pakistan après l'attaque de l'aéroport de la capitale économique Karachi. 10 hommes lourdement armés ont pris d'assaut les pistes. 5 heures de combat avec l'armée. Tous les assaillants sont morts. L'attaque a été revendiquée par les talibans. La prison à vie pour deux des meurtriers d'Anna Politkovskaya, le tireur et le cerveau de l'assassinat de la journaliste russe d'investigation. C'était en 2006. La journaliste avait été tuée dans le hall de son immeuble à Moscou. Leurs trois complices ont été condamnés à des peines de 12 à 20 ans de prison. À 3 jours du coup d'envoi du Mondial, la police de Sao Paulo a dispersé les manifestants ce matin à coups de gaz lacrymogène. Une centaine de Brésiliens qui soutiennent la grève des employés du métro. Employés qui réclament une augmentation de leur salaire. C'est à Sao Paulo justement qu'aura lieu le match inaugural Brésil-Croatie jeudi. L'équipe de France, elle, est en route pour le Brésil. Les Bleus ont décollé ce matin de Lille, arrivée prévue en toute fin de soirée dans leur camp de base à Ribeirão Preto. Nicolas Sarkozy aime les potins. La confidence est signée Hillary Clinton. Dans ses mémoires, à paraître demain aux États-Unis, l'ex-chef de la diplomatie américaine commente sans détour la personnalité des dirigeants étrangers. La plupart d'entre eux sont plus calmes en privé qu'en public, mais pas Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'écrit Hillary Clinton de l'ancien chef de l'État. Un fou accro aux drogues, un descendant d'une longue lignée de brutes. Voilà comment Nicolas Sarkozy parlait de certains dirigeants lorsqu'il était président, à en croire l'ancien secrétaire d'État.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do, 3 nouveaux groupes français qui ont le vent en poupe avec Isaac Delusion et sa pop électro. L'Europe très inspirée de Grand Blanc. Et la chanson française à la Bachung de Feu Chatterton.
Mes audaces, d'un geste les chassa.
Live Me Do.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Et à 16h05, dans quelques secondes, on retrouve Frédéric Lodéon pour le Carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierrick Bonneau. Et vous, c'est à 17h qu'on va vous entendre de nouveau pour d'autres informations. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Ah oui, le ciel est menaçant au-dessus de Paris, on peut vous dire que c'est gris. Et puis on sait que beaucoup d'entre vous ont souffert des grêlons gros comme des œufs de pigeon, comme des balles de tennis. On a tellement parlé de tennis, on en a vu du très beau d'ailleurs hier évidemment à Roland-Garros. Enfin bon, le Vexin a été touché tout près de Paris, une région qui couvre certains départements comme l'Eure, l'Oise et d'autres. Un endroit magnifique où il y a d'ailleurs un beau festival de musique jusqu'au 19 octobre. Et ben dans le Vexin, vous pourrez entendre par exemple à la ferme du Petit Serran, c'est dans l'Oise, le samedi 14 juin 18h30, Maria Milstein, violoniste, elle porte un nom fameux puisque le grand Nathan Milstein a laissé son nom pour toujours dans l'histoire musicale, avec Christian Huzzi au piano. Vous aurez encore à l'église de Ouinville sur Montsian, le 15 juin à 16h30, Éric Courrèges, violoncelliste, avec Dimitri Saroglou, tous deux fameux. Ils vont jouer des choses bien agréables, de Grieg, les suites de Pergunt, la valse triste qui est tellement douce de Sibelius, le salut d'amour, pas besoin d'en dire plus, d'Elgar, les dans son grâce de Brahms, et puis aussi du Michel Legrand, du Vladimir Kosma, du Jarre et du Maurice Jarre, le papa. Et puis le 21 juin, 18h30, c'est, vous savez, la fête de la musique, c'est à l'église d'Anserville. Anserville, c'est dans l'Oise aussi, un récital de piano avec Hortense Cartier-Bresson, Bach, Mendelssohn, Schumann. Et justement, Hortense Cartier-Bresson a gravé, il n'y a pas si longtemps que ça, les deux concertos pour piano et orchestre de Frédéric Chopin dans une version pour piano et cordes, quintette à cordes tout simplement. Bah oui, Chopin, quand il a fait entendre ses concertos au début, dans les salons, il n'avait pas tout un orchestre à sa disposition, donc il a proposé une version plus réduite qui ne manque pas de toute façon de charme. Premier mouvement, Allegro Maestoso.